Moi, ce qui m'impressionnait à l'époque, j'essayais toujours de me mettre du côté, du point de vue des familles qui voyaient en fait leurs proches entrer par la porte de l'hôpital et qu'ils n'en verraient plus jamais. Et ces familles qu'on était amenés à voir, par exemple, si leurs proches étaient hospitalisés, vivants, pour qu'ils nous amènent des effets personnels, pour qu'ils puissent avoir un téléphone, un chargeur, hop, la porte se refermait à nouveau, ils entreapercevaient le service et puis voilà. C'est des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà.
La traversée.
Épisode 5. Maintenir le lien.
Des portes s'ouvrent et se referment aussitôt. Durant la première vague, l'hôpital se replie sur lui-même, se coupe du monde extérieur. Comment les soignants de l'hôpital de La Fontaine ont réussi à maintenir le lien ? Le lien entre les patients et les êtres chers. Le lien entre les morts et ceux qui restent.
Alors, moi, la plupart des personnes que j'ai eues en suivi comme ça étaient des femmes qui avaient perdu leur mari. La plupart du temps, c'était ça. Et donc, voilà, ces femmes racontaient leur solitude. Le fait d'être loin de la famille, que les gens n'aient pas le droit de se rassembler à plus de je sais plus combien... que de toute façon les gens avaient peur, voilà, tout était renvoyé à une espèce de solitude. Et moi j'imaginais, voilà, bon, bref. Donc il y avait aussi cette question-là qui finalement est très importante pour les gens qui restent.
Je m'appelle Gladys, je suis infirmière en réanimation depuis 5 ans. C'était mon deuxième patient Covid du coup. Et il est arrivé rapidement, il s'est dégradé au niveau des machines, mais physiquement ça se voyait pas qu'il se dégradait. Donc du coup il nous a demandé d'envoyer des messages, des choses comme ça et tout, ce qu'on a fait. Et après bon, on s'est rendu compte qu'il désaturait, que ça n'allait plus, donc on l'a informé qu'on allait l'intuber et tout ça. Donc il a voulu qu'on informe son employeur, sa famille et tout. Ce qu'on a fait en envoyant des messages. Et du coup, pendant la journée, sa femme, elle l'avait pas vu depuis la veille. Donc, elle avait pas de nouvelles, elle l'avait pas vu. Donc, elle nous a appelés pour nous dire qu'elle voulait le voir, elle voulait avoir des informations. Et en fait, cette dame-là, elle l'a appelé quasi toute la journée. Genre, toutes les 10 minutes, elle appelait, comment il va, comment ça va, je peux le voir, ma fille, elle va pas comprendre, elle voudrait le voir, depuis hier, elle l'a pas vu, qu'il a jamais été malade, comment ça se fait que là, il a ça, il a aucun problème de santé et tout, donc elle comprenait pas. Donc on lui parlait, on lui expliquait et tout. Et au final, ben, dans l'après-midi, il s'est dégradé. Donc du coup, devant l'intensité de la requête de l'épouse de venir le voir, ben, j'ai demandé au chef de service qu'il fallait qu'elle vienne, quoi. Il fallait que les enfants viennent. Il a accepté, donc elle est venue, on a expliqué la situation. Et on a fait un entretien en salle des familles. Et on lui a dit, ben, quand elle est prête, qu'on pourra aller le voir. Et en fait, quand on rentrait dans le service, mon collègue m'informait par un signe que le patient, il était décédé. Et du coup, ben, on est reparti en salle des familles avec l'épouse. Et là, du coup, on lui a dit que finalement, ben, c'était fini, quoi. Donc, ça a été très difficile pour le fils. C'est un ado. Il avait 15 ans. Et la femme, ben, elle s'est littéralement jetée au sol. Je me suis baissée par terre. En fait, je l'ai prise dans mes bras. Et je lui ai dit, madame, ça va aller et tout. On va vous accompagner. On va être avec vous et tout. Et on est parti, on a été dans la chambre. Et ce qui a été difficile à ce moment-là aussi, c'est que là, en fait, il n'y avait plus de barrière. Les familles, elles pleuraient. Ben, nous aussi, on pleurait avec eux. Hein. On n'allait pas se cacher comme on fait maintenant. Hein. Maintenant, quand c'est dur, ben, on sort avec un collègue ou quoi, on pleure. Et puis, on revient requinqué, on va dire. Mais là, on n'avait pas le temps de se dire que non, on peut pas. Là, c'était quelque chose de vraiment... de jamais vu et tout, donc on pleurait avec les familles. Et du coup, quand ils sont rentrés dans la chambre, c'était difficile parce qu'il fallait les contenir, parce qu'ils voulaient le toucher. On pouvait rien faire, et c'était juste, tu viens, tu restes debout, tu regardes, et c'est tout. Donc ils faisaient le tour du lit, et puis nous, on les suivait autour du lit, pour dire, non, faut pas le toucher, parce que il y a le Covid, comme vous savez, et tout ça, en plus, il y a la petite, et tout. Et franchement, c'était difficile. Ils étaient trois. La mère, le fils d'un ancien mariage, il avait 15 ans, et la petite, elle avait peut-être 6-7 ans. On a dit, est-ce qu'on peut les laisser quand même se recueillir seuls? Mais il faut vraiment pas qu'ils s'approchent du lit, qu'ils enlèvent pas leur masque, qu'ils se déshabillent pas et tout. Fallait qu'on s'assure de ça. Et en même temps, on peut pas faire les flics, entre guillemets. Ils ont besoin de ce monde. Donc, on les a laissés. Ils sont restés assis, ils sont restés calmes. Et quand elle a senti que, voilà, c'était le moment, le fils aussi, on leur a demandé, est-ce que vous êtes sûrs? Ils ont dit oui. Et du coup, bon, on les a accompagnés vers la sortie et on a terminé notre travail, quoi. C'était lors de la première vague de Covid, où j'ai eu le Covid, justement, tout de suite après. Ben, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu, parce que c'était même pas une semaine après, où j'étais pas bien, mais je m'en rendais pas compte qu'on était dans le travail et tout. Et c'est un collègue qui m'a dit, mais Gladys, c'était bizarre, tu sens pas l'odeur et tout. Je lui ai dit non. Il me dit, mais toi, t'as le Covid. Je dis, mais non. Et du coup, je suis partie à la maison des usagers et tout. J'ai fait le test. Et du coup, ils m'ont appelé tout de suite après pour me dire, j'étais où? J'ai dit, ben, je suis au travail. Ben, vous êtes positif, vous rentrez chez vous? J'ai dit, non. Je peux pas quitter le navire, je reste ici. Et du coup, le médecin du travail, il est venu, il m'a dit, non, madame, vous êtes obligée. Et en fait, quand ils m'ont dit ça tout de suite après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais... c'est pour ça que je suis essoufflée. Chaque fois, je dois sortir dans les chambres. Mais je pensais que c'était le masque que je supportais pas, en fait. Et puis bon, ça a été. Je suis restée à la maison une semaine. Mais c'est vrai que cette période-là, c'était quelque chose d'assez compliqué parce que tu te dis que la relation qu'on a, un truc, ça peut tout bousiller. Autant on est tous ensemble, on se met bien, ben la distanciation, elle s'est faite naturellement. On dirait que c'était... ce qu'il fallait, quoi, pour vraiment créer cette barrière qu'il ne voulait pas créer.
Il y a eu beaucoup d'hôpitaux, j'en ai discuté avec des collègues, ils ont tout fermé. Et en fait, concrètement, chacun après a fait à sa sauce en local. Alors, enfin, faut pas se leurrer, hein, nous aussi, ça a été le cas. Mais malgré tout, le fait d'avoir aussi une coordination sur ce sujet-là a permis d'avoir un vrai débat, et notamment sur les cellules de crise, et aussi de sensibiliser les uns et les autres à l'importance, en fait, de maintenir ce lien social pour l'ensemble des patients et résidents.
Oui, vous m'entendez bien?
Oui.
Oui. Donc, je vous rappelais par rapport à la... pour organiser la sortie de votre papa, oui, vous avez été appelé par notre secrétaire. Donc, hier, vous avez eu le docteur Assouman, c'est ça, qui vous a, avec elle, vous avez vu pour la sortie? On en a trois, quatre même.
Assouman, c'est...
Oui, tout à fait.
Hein?
Pour le docteur Assouman.
Oui, ça, c'est lui.
Oui. Donc voilà, c'est toutes les modifications
On avait mis en place un système avec les internes où en fait on faisait la visite le matin et l'après-midi. On passait du temps à appeler tous les jours les familles pour donner des nouvelles. Ça, c'était dans la continuité des soins. Et en fait, il y avait aussi cette équipe mobile, qui était l'équipe mobile de soins palliatifs, qui s'était du coup transformée en équipe de lien, on va dire ça. Et donc, elle s'était étoffée de gens qui sont venus donner un coup de main. C'était vraiment pour les situations plus délicates, plus vers la fin de vie. Elle pouvait passer dans le service pour faire soit des appels vidéo, et du coup, ils essayaient de maintenir le lien. Et nous, on essayait de maintenir le lien quand même avec les familles de nos patients, en appelant tous les jours pour donner des nouvelles. Voilà, donc on faisait ça l'après-midi.
j'ai rappelé Abdel. On lui a dit hier que c'était possible 17h.
Bah non.
Aujourd'hui, comment ça se fait que...
Bah, je vais le rappeler.
J'ai dit, écoutez, moi, je vais laisser
je vais vous rappeler.
Ouais. Je lui ai dit que les sorties, habituellement, se font avant midi. Je lui ai dit, il faut que vous soyez là vraiment beaucoup plus tôt. Il m'a dit 15h30.
C'est trop tard, 15h30.
Nos entrées. J'ai dit, on a
une ambulance et des gens qui l'attendent.
Bah, il ne veut pas laisser partir.
Je vais le rappeler. Tu le rappelles et tu lui dis, essaye de le rassurer.
Et là, il est...
Il
attend un retour.
Et si jamais, tu lui dis, écoutez, si vous n'êtes pas rassuré, nous, le plus tard qu'on peut faire, c'est 14h.
Alors, moi, je suis Claudia Classen. Je suis psychologue à l'hôpital de Saint-Denis. Voilà, je fais différents services, mais globalement, je suis psychologue ici depuis 6 ans.
Et quel rôle vous aviez, Claudia, pendant la première vague du Covid ?
Alors, pendant la première vague du Covid, j'avais quitté mon service dans lequel je travaillais. Et donc, j'ai été intégrée dans ce qu'on a appelé l'équipe mobile de soutien, qui est... en fait, un agrandissement de l'équipe mobile de soins palliatifs qui fait donc un travail transversal qui va dans les différents services pour prendre en charge les questions globales autour de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et donc, cette équipe mobile a été agrandie et supplémentée par différents praticiens, donc des psychologues, des infirmières, des médecins, des assistantes sociales. Donc voilà, on était une équipe qui était à la base... 6 ou 7, on est devenu une vingtaine pendant cette première vague du Covid.
Et vous étiez beaucoup au téléphone à ce moment-là ?
En fait, je faisais de l'accompagnement et du suivi des proches de personnes qui étaient hospitalisées pour Covid. Donc ça, c'était au téléphone, mais on faisait aussi beaucoup... Enfin, on essayait de faire de l'accompagnement des proches auprès des malades quand on pouvait. Et on a aussi beaucoup fait un travail un peu d'interface entre les familles et les malades. On faisait des appels visio avec les patients et donc pour appeler leur famille.
Vous faisiez le lien, en fait, entre l'hôpital et l'extérieur.
Oui, exactement. Enfin, c'était pas que ça, hein, notre équipe, mais on faisait aussi du soin palliatif plus traditionnel, on va dire. Enfin, la question du soin palliatif, il y a aussi beaucoup la question de l'accompagnement des personnes. On n'est pas seulement sur traiter un symptôme, on parle... de manière plus globale de ce que c'est que le soin à apporter à une personne. Et donc, la question des visites, la question de la spiritualité, la question de l'angoisse, voilà. Et elle est traitée aussi par ce qu'on appelle les soins palliatifs, en général.
Bonjour.
Et en tant que psychologue, moi, j'avais jamais trop travaillé comme ça. Après, c'est devenu beaucoup plus là maintenant. Les psychologues font du téléphone, font de la visioconférence. Bon, mais on perd quand même énormément de quelque chose de notre métier. Et j'ai envie de dire surtout quand il s'agit d'une question de deuil. Je sais pas pourquoi, je trouve ça encore plus difficile quand il s'agit de ces questions-là, de parler de ça au téléphone. Vraiment, la question du corps de l'autre, en fait, elle parle tellement. Et pareil, en fait, quand on voit un psychologue, on ne fait pas que parler. Et on pleure, par exemple. Et le psychologue, souvent, il a un geste de tendre un mouchoir. Même dans le regard, il se passe des choses. Quand la personne pleure, en fait, on n'a pas beaucoup d'autres... voilà, moyen que de la laisser pleurer, parce que c'est... Mais au téléphone, c'est autre chose, quoi. D'entendre quelqu'un pleurer au téléphone, on n'a aucune action, et on a juste à laisser les pleurs venir, les larmes couler, mais ça me faisait en plus écho à la question de la solitude de ces personnes. Me disaient souvent à quel point elles étaient seules, justement, dans ce contexte de confinement, Et on ne faisait qu'accentuer la question de la solitude parce qu'on ne pouvait pas les recevoir. Quand on finit une consultation avec un psy, ben, on remet ses affaires, on rentre, il y a un mouvement. Et là, il y a juste à raccrocher le téléphone. Et en fait, on est au même endroit et il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Ça aussi, ça me travaillait un peu en tant que psychologue.
Ce moment-là, bien sûr, les gens, ils étaient tellement conscients, on disait tellement partout qu'on pouvait pas rentrer dans les hôpitaux, que c'était vraiment la catastrophe, que quand on les a laissés rentrer, effectivement, il y avait l'idée qu'ils nous remerciaient, d'une certaine façon, de prendre ce temps-là, parce qu'ils voyaient bien que les soignants étaient débordés. Pour certains, ils voyaient le fait qu'il y avait des patients qui étaient dans des états catastrophiques. La question que je me pose moi aujourd'hui sur ce qu'il en est des conséquences de cette absence ou cette difficulté à mettre en place des rites au moment du décès des gens dans notre hôpital pendant la première vague, c'est finalement pour les proches, comment pour des familles avec plusieurs enfants, le choix d'avoir eu à faire venir certains et pas d'autres, pour des familles qui habitaient loin et qui n'ont pas pu se déplacer et qui n'ont pas pu venir pour voir leurs proches malades et parfois même qui n'ont pas pu venir pour voir la personne décédée. Je me pose la question de qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui pour eux, comment ils ont pu un peu cheminer dans ces deuils très compliqués. Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas pu être dépassées? Est-ce qu'il y a des pertes et des privations qui sont restées inscrites de façon très douloureuse pour eux? Comment aussi, probablement, pour d'autres, des choses ont pu être créées, re-imaginées dans un après-coup, ouvertes, vécues dans d'autres temps, de façon collective. Et ça, c'est un peu les questions qui me restent.
On a proposé à des familles de venir une fois la première vague passée, quand on avait plus de temps, on a sélectionné les patients qui étaient décédés dans notre service et on a proposé aux familles de revenir s'ils le souhaitaient, poser leurs questions dans un entretien mixte psychologue-médecin. Alors il y a eu beaucoup de questions sur le fait qu'il n'y ait pas assez de respirateurs pour tout le monde, qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde, etc. Et donc il y avait aussi une grande inquiétude des familles qu'on débranche, entre guillemets, parce que c'est le mot consacré pour ça, consacré par la population générale. Des accusations parfois, ou des craintes formulées sous forme d'accusations de « vous allez le débrancher pour donner la machine à quelqu'un de plus jeune ». Mais non, on n'a pas fait ça. En réanimation, on a quand même régulièrement des décès très brutaux et très violents, ce qu'on n'avait pas eu à gérer, je pense, ou en tout cas pas à ce point-là, c'était l'incompréhension de « mais je comprends pas, en fait, mon mari, je l'ai emmené aux urgences, il allait bien. Et là, il est mort. » Et ça, c'était très particulier du Covid. C'est vrai que les patients avaient un truc très bizarre de, même avec un manque d'oxygène flagrant, ils n'avaient pas l'air très essoufflés, ils n'avaient pas l'air en souffrance. Et donc, il y avait une vision complètement erronée de la gravité par les familles, et les patients aussi d'ailleurs, qui fait que tout le monde tombait un peu des nues. Moi, il y a une question qui m'a beaucoup choquée, parce qu'en plus, c'était 2 ou 3 mois après le décès, et la famille m'a demandé, je crois que c'était une fille, elle m'a dit, vous m'avez appelé pour me dire que mon père, il allait mourir, mais du coup, quand j'étais dans la chambre, il était mort ou il était vivant? C'est dire le degré d'incompréhension et aussi la difficulté de poser des questions à ce moment-là. Mais ça, oui, ça m'a beaucoup marqué de me dire, mais ça fait 3 mois qu'elle se pose la question, est-ce qu'il était vivant ou est-ce qu'il était mort quand elle était là? C'était quand même... du coup, évidemment, nous, 3 mois après, on se rappelle pas forcément de la scène en détail, donc on essayait de lui faire dire, mais est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'il y avait une machine? Est-ce que la machine, elle faisait du bruit? Est-ce que le thorax, il se soulevait? Mais c'était... C'est facile de répondre quand on est en face de la situation. Quand c'est 3 mois après, on ne s'en rappelle pas forcément. Donc je me rappelle de ça. Et oui, je me rappelle d'une dame, il me semble qu'elle était infirmière, pas en réanimation, mais dans un autre service, et qui avait été très en difficulté avec sa famille, parce qu'il y avait énormément de fausses rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, dont on a appris des choses vraiment horribles. Apparemment, il y a eu toute une rumeur comme quoi le Covid, c'était un peu une excuse pour prendre les organes des Noirs. Et donc, il y avait une défiance vis-à-vis de l'hôpital qui était vraiment très importante. Et du coup, cette infirmière, elle était vraiment complètement en porte-à-faux entre sa famille, qui était persuadée que l'hôpital allait tuer le monsieur en question pour lui voler ses organes, et en même temps, du coup, le monsieur qui n'arrivait pas à respirer, etc. Donc, du coup, à cause de cette histoire de défiance, il était arrivé très très tard, et elle avait été complètement en porte-à-faux entre recourir aux soins, et donc elle était un peu, c'est pas possible ces rumeurs, je connais cet hôpital, les gens font pas ça, et en même temps, quand on est seul contre tous avec une idée, c'est compliqué. Mais ça avait été très choquant pour nous aussi, de se dire, bon, on a travaillé très dur, en fait les gens pensaient qu'on volait les organes des Noirs.
Pour en revenir, moi, à mon activité du coup principale pendant ce moment-là, qui était le contact avec des personnes, avec les proches dont les personnes étaient décédées ou hospitalisées. Enfin, ce n'était pas que pour les personnes décédées. C'est pas super, ça. Donc j'ai notamment le souvenir d'une dame dont le mari venait de décéder, que j'avais eu régulièrement au téléphone pendant assez longtemps. Il était assez jeune, enfin voilà, ils avaient des enfants en bas âge. Elle commençait à me parler au début d'une possibilité de confusion des corps au niveau de la morgue, de s'être trompée de corps. Alors parce que voilà, il faut savoir que pendant le Covid, la plupart des personnes ne voyaient pas les corps des défunts, ce qui fait que tout reposait sur la parole. C'est-à-dire, il est mort, ça venait des soignants, et la personne ne pouvait que le croire, adhérer, voilà, accepter. Donc il y a eu des personnes qui ont très mal vécu ça. Et donc, voilà, cette personne, au début, parlait d'une potentielle confusion qui était aussi beaucoup liée à des représentations de cas exceptionnel où ça se serait arrivé. Et donc, bon, voilà, au début, c'était de simples hypothèses. Et après, au fur et à mesure de nos appels, parce que c'était assez régulier, cette femme a vraiment évolué vers quelque chose de plus, de plus pathologique, de vraiment une croyance forte que le corps de son mari n'était pas à la bonne place. Elle ne doutait pas au début vraiment de la potentialité qu'il soit décédé, mais qu'il n'était pas dans le bon cercueil. C'était avant la cérémonie d'enterrement. Elle trouvait que ce n'était pas la bonne dimension, par exemple. Le cercueil était trop petit pour son mari. Ce ne serait pas lui dedans. Et ça a évolué beaucoup avec beaucoup d'angoisse sur finalement, voilà, est-il vraiment mort ? Est-ce qu'on ne me cache pas des choses ? Et ça, on a glissé. Alors, je crois que ça a été, ça s'est résolu. Hein. Elle a fini par aller mieux, un peu mieux, en tout cas par rapport à ses angoisses, mais ça a été transitoire. Donc, je pense que c'est surtout dû à une question de deuil compliqué. Et ça veut dire aussi que les rites qu'on fait autour d'un défunt, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là aussi pour le faire passer de la communauté des vivants à la communauté des morts. C'était intéressant. Elle disait que les morts du Covid, c'est comme s'ils ne méritaient pas d'être enterrés, ou d'être bien enterrés, en tout cas.
Vous leur répondiez quoi à ce moment-là?
Moi, je leur répondais pas. Enfin, voilà, mon rôle, c'était surtout d'écouter. De toute façon, la question du deuil, pour
n'importe quel psy, elle est compliquée. On n'a pas grand-chose à expliquer, à répondre. La perte de quelqu'un, elle est singulière à chacun et chacune d'entre nous. On peut juste écouter la perte et comprendre. Il y a aussi la perte brusque, la brutalité de la perte. Elle pensait porter plainte, elle pensait envoyer des photos notamment au niveau des tailles. La taille du corps de son mari était trop grande par rapport au cercueil qu'elle avait mesuré. Du coup, elle avait mesuré parce qu'elle avait vu le cercueil à la morgue. Et là, j'avoue que mon rôle a été un peu compliqué parce que j'étais un peu prise aussi dans toutes ces questions-là. Alors évidemment, on essaye de faire aussi un travail de réalité, de remise dans la réalité de la chose. Mais en fait, quand quelqu'un est persuadé, quelqu'un va très mal comme ça. C'était une dame qui avait des enfants, un entourage. Et donc, elle me disait que voilà, son entourage essayait de la ramener un peu à la réalité. Et ça avait, voilà, ça avait fonctionné. Et notre dernier appel, c'était ça. Elle était revenue en disant... En fait, je ne saurai jamais, mais je vois que ça fait souffrir aussi beaucoup de gens, l'espèce de quête de la vérité. Et donc, voilà, elle était revenue un peu à la base en disant « je ne saurai jamais », mais en fait, on ne sait jamais vraiment qui on enterre. Et je suis sûre, enfin, voilà, elle était sûre qu'il était mort et qu'il était finalement là où il devait être.
Et donc, on a réfléchi à une façon de pouvoir aider dans cette situation. Et on a pensé à un dispositif et que moi, j'ai beaucoup soutenu et que j'ai mis en place en réa, qui était le fait de prendre des photos des personnes décédées avant de fermer la housse. Donc, c'était pas simple. C'était quelque chose qui a pu beaucoup choquer certains de mes collègues. Il a fallu pas mal en parler. De dire, voilà, en même temps, prendre en photo des personnes décédées, pour certains, ça pouvait même être un manque de respect. Moi, ce que j'essayais de leur faire entendre, et ce qui a d'ailleurs, en général, plutôt bien marché, c'était de dire, pour ceux qui ne peuvent pas venir, il faut qu'ils puissent voir. Ça va être trop violent, ça va être trop compliqué, on l'imposera à personne. Mais pour ceux qui sont au bled, pour ceux qui habitent à des milliers de kilomètres, ils vont apprendre par... un cousin ou par une des personnes de l'entourage ou au contraire par quelqu'un de très proche que la personne est décédée, ils l'auront pas vu à l'hôpital, ils l'auront pas vu hospitalisé. La dernière fois qu'ils l'auront eu au téléphone, tout allait bien. On va leur dire, en fait, il est rentré, il avait une maladie, c'est le Covid et il est mort. Il peut être absolument fondamental pour que ces gens se remettent de cette perte, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent avoir une image de la personne décédée. Je me suis posé la question de comment transmettre cette photo aux familles. Ça me paraissait compliqué d'envoyer juste en pièce jointe, en mail ou même par SMS. Enfin voilà, j'ai un peu réfléchi comment organiser ça. Donc j'ai écrit un texte de condoléances de la part de l'hôpital et en mettant le carré noir qui encadre la photo, qui sont les codes des faire-part de décès. Et j'ai envoyé comme ça aux familles, qui le demandaient. Voilà, on a récupéré des vieux appareils photo numériques. Voilà, il fallait les recadrer par moment, il fallait un peu les retoucher. Donc je me suis retrouvée à faire du traitement de photos de personnes décédées. Je n'avais pas du tout prévu que j'aurais à faire ça un jour dans ma vie. C'est comme ça. Il m'est apparu que, globalement, de façon générale, les gens prenaient la personne en plan américain. Et donc, effectivement, mettaient au centre la question du visage. Et c'est là où il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui était absolument fondamental, qui était que dans ces moments de mort indénombrable, de cette espèce d'anonymisation comme ça, quelque chose du visage et de l'identité du mort était à ce moment-là mis en avant. Et moi, j'ai trouvé que c'était très fort. Ça semblait choquant, ça semblait violent. En fait, dans l'après-coup, j'ai eu beaucoup de retours qui disaient que ça avait été une façon de garder de l'humanité. C'est-à-dire que ces gens, ils ont été leur visage et leur nom ont été gardés en mémoire et ont été reconnus par l'institution. Ils ont été voilà, vus, nommés pour les proches.
Et donc, on a eu beaucoup de retours de personnes, surtout de ces gens-là, en fait, de personnes qui nous ont dit merci, merci pour ces photos que vous avez su prendre alors qu'on ne pouvait pas venir visiter papa, maman, tati, tonton. Tout comme ceux qui ont eu la possibilité de voir les photos, mais qui ont choisi de ne pas les voir. Moi, j'ai le souvenir de 2-3 messages de personnes qui disaient merci pour ça, merci d'avoir pris soin de mon père ou ma mère. J'ai pas eu la force de regarder les photos, mais voilà, je l'ai eu, pas eu au téléphone avant que les choses ne compliquent, etc. Je sais que vous avez fait votre possible, et donc voilà.
La traversée.
Épisode 5, maintenir le lien. Avec la musique originale de Pierre Chaffanjon.
Prise de son et écriture, Sarah Lefebvre.
Réalisation et mixage, Brice Andlauer.